que j'apprends, Funky, espèce de malhonnête?
Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal.
Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Oh.
Enculé de ta race!
J'adore les duels inoffensifs. Et maintenant, casse-toi. À la prochaine fois, je m'occuperai de toi avec de vraies balles. Et ça chauffera pour ton cul, sale français.
Bah, je suis même pas français, je suis américain.
Non, t'es français, moi je suis américain.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
As my grandma told me. Yeah, superstitious devices. As my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah.
Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 6. Petite citation pour commencer, attention. Je crois que le western est le genre le plus populaire et il donne plus de liberté que les autres pour mettre en scène des passions et des actions violentes. Je crois que c'est aussi le genre qui vieillit le moins vite car il est essentiellement primitif. Il n'a aucune règle et avec lui, tout est possible. De lui surtout naît la légende et c'est la légende qui donne le meilleur cinéma. Elle excite l'imagination et le public n'a pas à la prendre trop au sérieux. Ce qu'il faut, c'est qu'il ressente des émotions. La légende qui met en scène des personnages plus grands que la vie peut les lui faire ressentir. La légende fait oublier au public et qui se dit « Ah, si j'avais vécu cette époque, c'est formidable ce que ces gens ont pu faire. » Bien sûr, le cinéma, ce n'est pas seulement cela. Il y a d'autres écoles, d'autres façons de voir. The Servante de Lozay, par exemple, est un très grand film qui pousse très loin l'étude morale et psychologique des personnages. Mais il vous laisse petit et misérable. Il ne vous libère pas. Le western, au contraire, vous libère. Grâce à lui, vous possédez les plaines, le vent, le ciel, les endroits où vous n'êtes jamais allé. Et puis, cela est très important, il libère tout ce que les personnages ont au fond d'eux-mêmes. Ils redeviennent primitifs, proches des Grecs, et il y a en eux de l'Oedipe ou de l'Antigone. La légende réapparaît. Le Cid est un mystère espagnol parcouru par une légende, la chute de l'Empire romain aussi. Anthony Mann sur le western. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle aimait que les autres. Et ce soir, émission spéciale vieux conisme, puisque donc nous n'allons parler que de vieux films et donc principalement que du genre le plus cool de toute l'histoire du cinéma, c'est-à-dire le western, à l'occasion de la ressortie chez Sidonis Calista en combo DVD, Blu-ray ou seulement DVD, de trois films. D'abord Winchester 73 de Anthony Mann. Ensuite, Jesse James, Le Brigand bien-aimé de Nicolas Ray. Et enfin, À feu et à sang de Bud Poticoeur. Donc voilà pour parler de tout ce jeu et programme autour de cette table. Il y a bien évidemment la fine fleur de la critique hexagonale. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur.
Bonjour.
Il y a évidemment carrément Fleuret. Bonsoir Thibault.
Salut Thomas, salut à tous.
Il y a avec nous Esmeralda. Donc bonsoir Carla.
Pourquoi Esmeralda?
Parce que t'es habillée comme Esmeralda.
Ouais, d'accord. Bonsoir.
Il y a bien évidemment notre spécialiste S-Western, Simon Gosselin, dit Simon le Jeune. Bonsoir Simon.
Bonsoir à tous.
Et à la mise en son de cette émission, il y a toujours Gal. Bonsoir mon cher.
Bonsoir.
Gal qui aujourd'hui a eu le cœur qui a saigné, puisque donc nous sommes sur le campus de Rennes 2, le campus où les étudiants applaudissent quand la maison Poulaga et la flicaille viennent virer des bloqueurs de l'université. Mmh. Ils viennent les applaudir, donc voilà, moi je trouve ça absolument exécrable.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse, c'est lamentable, et bien sûr, nous ne cautionnons pas ces...
C'est comme le racisme, c'est mal en fait.
Exactement, c'est mal. Comme l'a dit James Stewart en préambule de cette émission, c'est dégueulasse, il y a des propos intolérables ou qu'il n'y a pas de tolérance et nous ne tolérons bien évidemment pas ça ici. Voilà, donc avant de passer à la section critique de cette émission, agenda local commence la semaine prochaine, donc mercredi prochain, le festival court-métrage à Rennes, donc qui se déroulera principalement au cinéma Gaumont et quelques événements annexes, notamment avec des conférences au champ libre, donc de mercredi à dimanche prochain, avec évidemment une compétition de court-métrage, mais donc diverses événements autour de ça, notamment mardi prochain, il y a la projection de deux films de Dario Argento en copie restaurée, Suspiria et Les Frissons de l'Angoisse, qui seront présentés par Guy Astic, le directeur des formidables éditions Rouge Profond. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine, nous n'aurons pas d'émission en direct, je vais revenir un petit peu après. Et il y a aussi mercredi à 18h30 au Champ Libre, une conférence sur le cinéma fantastique italien et plus spécifiquement le giallo, qui sera orchestrée par le formidable Doug Edline, donc ancien de la revue Starfix, ancien documentariste, ancien réalisateur et maintenant plutôt scénariste pour la bande dessinée, donc qui viendra parler de tout ça parce que c'est quelque chose qu'il connaît évidemment excessivement bien et il en parle de manière absolument formidable.
À propos de cinéma italien, on peut dire peut-être qu'aujourd'hui, le cinéma a perdu une de ses grandes...
Voilà, puisque donc à l'âge
qui est mort
de 88 ans, Valentino Valentini...
La personne dans la
ça
tête
Ça fait mal au cœur, on va tous y passer, putain.
Les films de Funès et tout, moi c'est voilà. Une part de mon enfance, ah merde ouais,
les ouais, films de l'autre merde, voilà, Valentino Valentini, à l'âge vénérable de 88 ans, alors qu'il continue encore de tourner de temps en temps.
Et il était encore hyper beau gosse à 88 ans.
Il avait la classe à l'italien.
Les tontons flingueurs aussi, il n'y a que du bon chez lui. Peut-être pas que du bon, mais il y a du bon.
Même son est cool, quoi.
Ouais, puis il était cool, comme ouais. Il avait une bonne tête.
Donc voilà, Valentino Valentini nous a quittés. Donc, de toute façon, là, ça va être de plus en plus, que ce soit dans les stars ou dans les seconds rôles.
Ça m'embête plus qu'Aznavour, tu vois, bizarrement.
Oui, moi aussi.
Bizarrement.
Donc voilà, donc je disais court-métrage la semaine prochaine et donc nous n'aurons pas d'émission en direct, mais nous passerons une mixtape spéciale 10 ans puisque la première de En attendant Godard avait lieu le 10 octobre 2008. Donc la semaine prochaine, le 16 octobre, nous ferons une petite mixtape spéciale concoctée par tous les membres de cette émission et quelques membres passés en tout cas de l'émission, donc qui chacun proposeront une certaine musicalité. Vous verrez, ce serait fort varié dans ces différentes musiques.
Un pot pourri.
Un pot pourri, exactement. Un pot et parfois un peu pourri.
Un peu pourri, quand même.
Donc voilà, donc nous passerons ça. Et sinon, donc pour finir, dimanche 14 octobre, donc à l'Arvor, dans le cadre des films du dimanche soir qui vous ont proposé par votre émission de cinéma préférée, donc En attendant Godard et l'émission des Trous de balles de Canal B, nos amis du cinéma est mort, Antonin et Etienne, nous aurons la grande joie et le bonheur de vous présenter Predator de John McTiernan, puisque donc la nouvelle version...
C'est quand, c'est le 14 octobre?
Le 14 octobre, voilà, à 21h15 normalement. La putain de...
Non, parce que j'ai une furieuse envie de me remater le 2 en fait. Ah. Donc, je me suis dit, il fallait que je me refasse le 1 du coup. Bon.
Voilà, puisque donc il y aura la version de Shane Black qui sort la semaine d'après. Bien sûr, nous y verrons vérifier ça sur pièce, hein, même si nous sommes quand même un enthousiasme mesuré.
Modéré.
Puis voilà. Demain, il y a les rendez-vous de Clair Obscur. Non, jeudi, les rendez-vous de Clair Obscur qui reprennent avec Le Bal, je crois.
C'est pas un Scola, ça?
Ils l'ont passé l'année dernière, Le Bal.
Non, un autre film qui s'appelle Le Bal. Aussi, dans le cadre du festival Le Grand Soufflet, mais je n'ai pas plus d'infos.
D'accord, super.
Ça reprend. Ouais.
Voilà. Voilà, donc ça reprend donc, le jeudi à l'Arvor. Sinon, donc, ce soir à Cinémaniacs à 20h30, vous pourrez voir Le Roman de Renard de Ladislav et Irène Starevitch, film d'animation franco-allemand de 1937, donc une des multiples adaptations du conte du Moyen-Âge. Demain, au Tambour, soirée, Je ne regrette rien de ma jeunesse, avec 18h des écrans variables, donc c'est plein de petits courts-métrages plus ou moins longs mais différents. Et à 20h30, En avant jeunesse de Pedro Costa, film de 2006, film je pense recommandé par notre Air Force One. Hein.
Ah oui.
Donc voilà, une fois de plus, à vos risques et périls. Sinon, jeudi soir au TNB, il y a la projection de L'Héroïque Land de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval en leur présence.
Un moment sympa. Ouais. Assez sympa. Hein.
C'est des bons films, mais c'est pas vraiment des feel-good documentaires.
Ah oui, j'imagine Nicolas Klotz. Je m'attends à peu près. Oui, que ce
donc voilà, donc le film sera projeté au TNB en présence de ses réalisateurs et aussi animé. Donc ça sera animé donc par le professeur de l'Université Rennes 2, Anthony Fian. À la agenda national, donc demain sort un film pour moi, même si ça va être nul à chier que j'ai pas envie de le voir, c'est Venom. Et pourquoi? Parce que ça met en scène Tom Hardy dans le rôle d'un des super méchants les plus nuls de l'univers.
Ouais, mais c'est Tom Hardy.
C'est Tom Hardy de l'univers Marvel qui va cabotiner comme un cochon, faire strictement n'importe quoi, où lui-même dit que le film est quand même à moitié moisi parce que toutes ses scènes préférées ont été coupées. Mais les premières critiques comparent le film au Catwoman de Pitoff. Du coup, je ne vous cache pas que ça a quand même excité ma curiosité si
Empire,
c'est du niveau du film de Pitoff.
Empire, ouais.
Alors là, je demande à voir parce que c'est quand même du high level. Hein.
Ah, moi, je pensais bêtement, moi, j'ai pas suivi ça, mais je pensais bêtement, moi, qu'ils étaient partis sur un truc un peu à la Logan, tu vois, faire des espèces de franchises un peu, des stand-alone un peu plus pour adultes. adulte et tout, et nous en fait non.
Non, en fait, non, à, non, la base, en fait c'est tout bidon, à la base le film devait être classé R, puis il a été remonté justement, coupé pour faire PG-13. Donc voilà. De toute façon, rappelons que c'est Ruben Fleischer, le réalisateur de
Hollywood, oui, Gangster Squad. Voilà, et de, c'est ça. Qui
n'est pas un esthète non plus. Bon, c'est pas, ouais, bref. Hein. Sinon, dans le rayon des suites qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus, et on se fiche un peu, mais pourquoi pas, Johnny English contre-attaque, donc le retour de Rowan Atkinson dans le rôle du deuxième agent le plus nul de Sa Majesté après James Bond, hein, puisque donc ses dernières aventures, comme c'était pas, voilà. Donc, voilà,
il a quel âge, Rowan Atkinson?
Bah, il a 70 ans, hein, facile.
Oh, un peu moins.
Un peu moins, mais...
Putain, et ça date de quand, le premier Johnny English?
C'était il y a 2003, ouais, 2003 par là.
Ouais.
Eh ben oui, merci Thibaut. Sinon, il y a le nouveau long métrage d'animation de Michel Oslo, donc notre cinéaste raciste préféré, Didi à Paris.
Ah, je l'ai entendu ce matin, il est passé sur Boomerang là, avec l'autre là.
Rebecca Manzoni.
Avec Trapenard.
Augustin Trapenard, France Inter.
Augustin Trapenard.
Sinon, il y a un film, je ne sais pas pourquoi je l'ai testé, s'appelle RBG sur Ruth Bader Ginsburg, une activiste quelconque, enfin pas quelconque, hein, excusez-moi d'acheter ses mémoires, mais j'ai noté ça pour noter un truc.
Il va y avoir des problèmes.
Sinon, il y a le premier film américain de Mélanie Laurent, Galveston, qu'elle a mis en scène avec Ben Foster, qui doit du coup encore jouer un mec à moitié psychopathe.
Et qu'il y a des bons retours.
Ouais, qu'il y a des bons retours ou pas.
Bah, si c'est Ben Foster qui a réalisé le film, ouais. Enfin, je sais pas si c'est comme le film précédent de Mélanie Laurent où il y a son nom, en fait.
Ouais. Regarde la bande-annonce.
Elle est venue faire une interview à un moment, quoi, tu vois. Donc, si c'est Ben Foster, j'ai plus confiance.
Oh là là, mais quel mauvais esprit.
Ah, mais non.
Sinon, on est
comment c'était un film en un seul titre.
Mélanie, on t'aime.
En un mot.
Bah oui, on n'a pas le choix. Sinon, on commence demain au TNB, donc une mini rétro consacrée à Jeanne Moreau. Et donc deux ressorties nationales mais pas chez nous, donc dans le cadre de la rétrospective à la Cinémathèque française, il était une fois dans l'Ouest mais qui donc ne passe pas chez nous. Alors que la restauration...
Il passe à Saint-Malo le 14.
Et la restauration, voilà, la restauration que j'avais pu voir à La Rochelle il y a deux ans est absolument somptueuse. On pouvait compter le moindre poil de barbe non rasé sur les joues de Charles Bronson. C'était magnifique. Et donc sinon, ressort mais malheureusement pas à Rennes, j'aurais bien vu à la revoir Le Flic de Beverly Hills de Martin Brest. Moi, je verrais bien la trilogie repasser à Rennes, mais bon...
Ouais, mais c'est pas pour demain. Scott.
Non, malheureusement, c'est pas
mais
pour
peut-être
demain.
Peut-être pour un film du dimanche soir, éventuellement. Ah ouais, bah... ça peut être une plutôt bonne idée.
Ah bah, moi...
Il faudra en parler aux activistes... voilà, de notre émission Némésis.
Ah, de toute façon, moi, Anthony Scott, par exemple, je suis absolument partant, mais on en a déjà parlé avec eux. Donc voilà, c'est l'agenda, vous voyez, c'est super. Hein. Donc,
c'est sympa.
Mais il y a quand même pas mal de trucs, finalement.
Oui,
il y a quand même de la chose, quoi, finalement.
Il y a plein de choses à voir, hein, quand même, à Rennes, en dehors des sorties nationales, sauf bien sûr si vous voulez aller voir Venom avec moi demain soir. Donc nous allons passer à la section critique de cette émission, et donc nous partons dans l'Ouest avec des gens qui ont été partout. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high end canvas covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me, you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, County, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Coast, Rocket, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Sea, Guatemala. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man.
I've traveled, I've had my share, man, I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistall, Chattanooga, Chasta, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man, I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man, I've been everywhere. I've been everywhere.
En attendant Godard sur Syllab, et c'était donc Johnny Cash avec I've Been Everywhere, où donc Johnny Cash énumère toutes les villes et les états américains où il a pu passer, ce qui en fait quand même un sacré paquet. Et donc de gens qui sont allés partout, c'est un peu ce qui se passe dans l'histoire du western, et c'est pour ça que donc nous allons revenir sur une triple sortie, donc de trois éditions en DVD et Blu-ray chez Sidonie Scalista, donc éditeur de films de patrimoine et particulièrement de western, qui donc nous ont sorti un palanquier à la fin de l'été. Là, nous allons revenir sur trois, mais sur notamment trois réalisateurs d'importance. Donc, Winchester 73 de Anthony Mann, Jesse James, le brigand bien-aimé de Nicolas Ray, et À feu et à sang de Bud Boutiqueur. Nous allons commencer dès à présent donc, avec le film de Anthony Mann, qui est un des réalisateurs, en tout cas de l'âge classique, un des plus, je trouve, un des plus étranges, un des plus célébrés à juste titre, et qui a œuvré principalement quand même dans le polar ou film noir, et qui a fait quelques westerns. Donc, notamment, il en a fait 5 avec James Stewart, dont celui-là, qui est la première de leur collaboration. Suivront donc Les Affameurs, L'Appât, Je suis un aventurier et L'Homme de la Plaine. Et donc là, c'était un projet Winchester 73, donc film qui date de 1950, donc parce que la Winchester 73, c'est en référence au fusil et non pas à l'année de production, pas comme par exemple Dracula 69 de James Franco qui date de 69, mais Dracula 70 en France parce qu'il est sorti en 70.
Mais ça n'a aucun rapport. Tout
ça n'a aucun rapport.
Ou Dracula 2000.
Oui, voilà.
On a oublié celui-là.
Dracula 2000 aux USA.
Oui, exactement.
Et donc
c'était nul, hein, d'ailleurs.
Ouais, <c'est... rire> Dominique Purcell, petit ange.
Et donc... Break 2 et l'équipe Bougalou aussi, hein, dans
oui,
un autre.
C'est vrai.
Qui date bien, dont le titre date bien l'époque.
Voilà, pareil, on revient à nos moutons. Winchester 73, qui est un projet à la base qui était prévu pour Fritz Lang, qui s'est désintéressé assez vite du projet, mais James Stewart, donc, qui était déjà une star à l'époque, était déjà attaché au projet, et c'est lui qui a amené Anthony Mann sur le projet, donc il n'avait jamais réalisé de western jusqu'à présent, je crois.
Si, alors en fait, il en avait fait
voilà.
Deux,
contredis-moi.
Mais qui n'étaient pas des frénins, qui était un simili-western qui doit dater de la fin 49 ou début 50, qui s'appelle Les Furies avec Barbara Stanwyck, où on est un peu plus proche du film noir. Il y avait Border Incident qui était déjà un peu entre les deux aussi. Et il avait fait un vrai western qui était un des premiers westerns pro-indiens qui arrive un peu avant La Flèche Brisée de Delmer Daves, qui s'appelle. Je me rappelle plus exactement le nom. C'est La Porte du Diable, je crois. Ouais, c'est ça, qui était vraiment le western un peu pro-indien. Mais là, on va arriver vraiment avec ces bons westerns.
Ouais, donc, il n'y a pas de star dans ces trois premiers westerns.
Barbara Stanwyck.
Barbara Stanwyck, mais enfin, qui est un peu en fin de course quand même à cette époque-là.
Il y a Robert Taylor dans le deuxième, dans le western pro-indien.
Puis dans La Flèche Brisée, il y a Spencer Tracy.
Ouais, mais c'est Delmer Daves
qui vient.
Alors non, ça, c'est La Lance Brisée.
Ah ouais, je confonds. C'est bien.
Tous ces types de westerns qui se ressemblent, c'est fatiguant à la fin. Donc, merci mon cher Simon. Donc voilà, donc Anthony Mann, un de ses premiers gros westerns, on va dire, et surtout qui ramène un peu un scénariste star du genre qui est Borden Chase, qui n'était pas le premier scénariste, mais qui était ramené justement pour remodeler un peu tout ça. Donc il s'est déjà connu à l'époque pour être le scénariste de La Rivière Rouge de Howard Hawks. Après, il écrira par exemple Le Monde nous appartient pour Howl Watch. Il a écrit Vera Cruz pour Robert Aldrich.
Ouais, d'accord.
Donc voilà.
Je crois que c'était le mec qui s'y connaissait le plus en fait sur l'histoire vraiment de l'Ouest. Il connaissait tous les groupes, toutes les régions et tout. Il était vachement apprécié pour ça. Puis Anthony Mann était scénariste avec lui en fait là-dessus. Juste si je peux dire ça aussi, il y a un truc assez particulier dans ce western, c'est peut-être vraiment l'exception, c'est Stewart, en fait, à ce moment-là, il était fini, en fait, plus ou moins. C'est-à-dire qu'avant-guerre, c'était une star.
Il revient héros de guerre,
sauf que ses cheveux sont devenus tout blancs pendant la guerre, et il passe plus pour faire un étudiant un peu attardé, ou ce genre de truc qu'il avait chez Lubitsch ou Capra. Et du coup, là, en fait, il essaie de se relancer un peu une image. Et c'est avec en fait, ce film-là qu'il va vraiment se lancer une image, notamment en disant, je veux pas d'argent sur le film, mais je veux 30% de la recette totale.
C'est le premier à avoir fait ça. J'ai lu il y a pas longtemps un article sur les agents, en fait. Et ça a été toute une histoire, ce truc.
Ouais,
c'est un précédent où c'est le premier à avoir vraiment touché d'un pourcentage sur recette, en fait.
Ça, ouais.
Et après, c'est devenu une norme, en fait, chez les acteurs américains.
Et pas mal de gens disent que ça est vraiment presque la principale raison de la mort du cinéma hollywoodien tel qu'il était fait, standardisé et tout ça, puisque en fait, ça a coupé complètement.
Alors, et puis le fait que les réalisateurs aient de plus en plus de sociétés de production indépendantes, en fait.
Oui, c'est vrai, c'est ça.
Et justement, les agents, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, avec des agents comme Feldman, par exemple, qui étaient des mecs, en fait, qui avaient vraiment un contrôle créatif sur les stars qu'ils avaient dans leur agence, et qui pouvaient vraiment agir auprès des producteurs et négocier pied à pied pour que leur poulain soit à la fois bien payé et qu'ils aient les choix créatifs aussi, à dire un truc. Sur John Wayne, par exemple,
ça marche. De toute façon, Anthony Mann, juste pour revenir sur sa carrière, il y a eu une petite période à la fin des années 50 où il a monté sa propre société de production indépendante avec ses propres stars qui travaillaient toujours avec lui, où il a vraiment pu faire le cinéma qu'il voulait, qui était un truc un peu plus engagé, des films d'escarmouches de guerre qui étaient assez violents. Mais c'est vrai que ça s'est un peu délité à ce moment-là. Pour revenir sur cet aspect de James Stewart aussi.
Parce que c'est un film qui justement a un peu changé l'image de James Stewart. On avait plutôt l'image soit d'un bon gars, un mec sympathique. Et à partir des westerns d'Anthony Mann, il commence à travailler une image de héros, de anti-héros un peu plus cynique, un peu plus dur, voire même plus tard, notamment.
Obsessionnel surtout. Hitchcock mettra, à mon avis, niveau dans Vertigo. Mais les années 50, c'est ça. Parce que Winchester 73, t'as cette espèce de mec qui a une ligne. Et qui dévie pas de sa ligne.
Surtout, je pensais après.
Il a un but et
obstiné.
Et il y a une scène vachement bien, justement, parce qu'en fait, il poursuit un personnage pour une raison qu'on découvrira dans le film.
Voilà, sur le pitch.
Et le personnage lui a volé la Winchester 73 qu'il a gagné lors d'un concours à Touch City.
Avant l'émission, j'avais fait un parallèle un peu hasardeux en disant que c'est un peu la même histoire que les clés de bagnole. C'est l'histoire d'un mec qui a perdu sa Winchester et qui la cherche pendant tout le film. Mais en fait, pas vraiment. C'est un peu l'argument de base du film. En fait, à la fois, il ne cherche pas vraiment la Winchester, mais le mec qui lui a volé. Un mec avec qui il a un contentieux. De longue date.
Un gros contentieux.
Familial, on va dire.
Un contentieux qu'il ne faut pas trop révéler.
Voilà, qui date de longue date. Ouais. Et donc, cette Winchester, en fait, va passer de main en main et être un peu une genre de témoin du début de la fin de l'Ouest. Puisque c'est la période où c'est Wyatt Earp est à Tombstone, à Dutch City, comme shérif. Le général Custer vient de se faire massacrer à Little Big Horn. C'est vraiment tout frais dans le film, ça vient d'arriver. Et donc cette arme-là va passer de main en main, aux mains des truands, aux mains des indiens, aux mains de la cavalerie.
Trafiquant
d'armes.
En fait, cette Winchester, c'est le fil rouge, le leitmotiv pour Anthony Mann, qui donne... possibilité à Anthony Mann d'explorer en fait tout ce qui a fait le western depuis sa création en fait. C'est pour ça que le film a un petit peu un côté catalogue, on va dire ça comme ça, parce que il reprend tous les espaces, il reprend tous les lieux, il reprend tous les codes, toutes les figures.
Et alors qu'on est
la
quand même
jeune
que
femme
en 1950, mais c'est déjà
paysan,
un genre de best-of du genre.
Le pleutre, l'indien, la cavalerie, mais bon, la cavalerie aussi elle est un peu branque-ballante. En fait, tout le monde est branque-ballant en fait chez Anthony Mann, donc c'est ça qui est intéressant, malgré ce côté catalogue qu'on pourrait croire comme une espèce de grandeur de l'Amérique. Mais néanmoins, tout est brinque-ballant chez Anthony Mann et c'est ça qui est intéressant au-delà de cet effet catalogue qui peut
l'assurer. Avant de parler plus précisément du film, je voulais demander, mon cher Simon, il en est où dans cette partie-là de sa carrière, Anthony Mann ? Parce que donc, je disais, il a fait des films noirs mais qui datent d'un peu avant ou à peu près de la même période ?
Qui sont des B-movies en plus, les films noirs. C'est pas des films A, les films noirs. C'est des Parchet de Brut et c'est des films B encore, ça.
C'est des films en fait plutôt B dans la production mais qui passent film A.
D'accord.
Donc il est un peu entre les deux, mais c'est-à-dire qu'il est fin des années 40, début 50, il commence à bien marcher. Après, c'est pas encore un grand cinéaste connu, mais on lui reconnaît un bon sens de la mise en scène, notamment depuis
une efficacité.
Film, la Brigade du Suicide, là, à partir de 47-48, il commence Marché de Brut, c'est le moment où il commence un peu à avoir. Il travaille très bien en équipe aussi, les gens l'apprécient pour ça, et du coup, il a une bonne réputation à Hollywood. Parce qu'il avait travaillé avant, son chef opérateur, c'était John Alton, et ils avaient beaucoup bossé ensemble.
Il y a cette espèce de sécheresse qu'il y a chez Mann qu'on retrouve aussi dans les westerns,
cette espèce de
côté où on n'est pas dans le lyrisme.
Cette efficacité, je la trouve surtout dans Winchester 73, dans la première partie du film. Je trouve que toute l'exposition, le duel au début, enfin le concours dans Dodge City justement pour gagner la Winchester, toute la mise en place des personnages, tout ça, je la trouve hyper efficace. Et après toute la partie où on rencontre le premier trafiquant d'armes dans la taverne, tout ça, jusqu'à l'arrivée des Indiens et de la cavalerie. Je trouve qu'après ça, la deuxième partie du film baisse un peu en tension et finalement on retrouve tombe dans un truc, je trouve un peu plus.
Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même la scène avec avec l'espèce de cowboy. De cowboy branleur là, comment il s'appelle?
Dan Duryea, non?
Voilà, Wild, qui est une espèce de personnage un peu fantasque, qui est déjà en train d'annoncer un peu des personnages de Léon en fait, une espèce de gars dont on sait pas trop s'il est psychopathe ou pittoresque quoi. Il fout un peu les jetons, mais il y a toute la scène avec dans la maison en flammes et tout ça. Ah, moi, je trouve qu'elle est vachement bien cette scène-là.
Elle est vachement bien. J'avais une lecture un peu du film, c'est autant si je trouvais qu'il faisait catalogue de faits complètement. Je trouve qu'au début, la mise en scène, on est un peu du côté quand même de Walsh, c'est-à-dire on est très efficace, mais si on regarde la manière dont il gère son plan, c'est souvent des plans en diagonale, tout ça, parce que son format c'est du 4 tiers, donc, et c'est assez classique dans le cinéma hollywoodien, c'est très efficace, mais c'est classique. Et plus on va aller dans le film, je pense, plus il va y avoir le côté noir qui va s'installer. Et je trouve qu'une de ses meilleures idées dans le film, c'est d'avoir...
Quand tu parles de côté noir, tu parles de l'aspect thématique ou bien visuel, c'est-à-dire sur,
plutôt,
sur énormément d'ombres.
Plutôt thématique, en fait, plutôt du point de vue du scénario, mais aussi visuellement, c'est-à-dire que sa mise en scène va devenir une mise en scène pour moi de film noir, en fait, plus ça va aller, notamment il y a une séquence à la fin où il se bagarre dans un saloon contre un personnage qui est interprété donc, par Dan Duryea, qui joue un petit gangster, qui est un gars qui
carton, elle est carton, ouais, James Stewart, comment il... Comme il le chope dans cette scène-là, il est vénère. Ouais.
En plus, Dan Duryea, c'est vraiment un acteur de film noir. En fait, le fait de le faire venir dans un western, je pense que c'est quasiment une des premières fois qu'il vient là. Et en fait, je trouve que plus ça va aller, plus il va aller vers une mise en scène qui va être ultra découpée dans les scènes de violence et très très efficace en fait et assez assez jolie, assez virtuose.
Et puis sans rien révéler de la fin du film, mais l'affrontement final, moi je trouve qu'il y a un choix de décor. Enfin, il y a un truc sur la, il y a un travail sur la profondeur de champ qui est absolument incroyable dans cette scène-là, avec des plans où les personnages sont à 150 mètres l'un de l'autre, de tirer dessus. Enfin,
c'est vrai qu'il y a, un vrai jeu sur les lignes. À un moment, il y a un effet quand ils sont dans la cabane juste avant le duel final. Il y a une cabane et puis il y a un effet optique en fait qui fait que le méchant en fait est en train de braquer. Quand il récupère la Winchester, il est en train de braquer un de ses collègues. En fait, il le braque pas, mais t'as l'impression qu'il le braque. Ça montre un petit peu il y a des effets visuels d'optique là qui sont vraiment très très sympas et qui dénotent un petit peu.
Puis des supers idées, par exemple, l'idée des rebonds de balles. Des balles qui rebondissent sur les rochers où on essaie de toucher l'autre en faisant des ricochets et tout.
Un billard à trois bras.
Moi, j'ai pas accroché. Ouais, je comprends pas pourquoi j'ai pas accroché.
Parce qu'on le dégage, ça veut rien dire.
Tout à l'heure, Thibaut, tu parlais de l'aspect cataloguisant. Là. Moi, j'ai trouvé que c'était plus caricatural. Limite comme si c'était un western pour les enfants, enfin tu vois, quelque chose de très didactique.
Alors que moi, je trouve que c'est un western qui est vachement violent. Il n'y a plus du tout cette espèce de. Alors déjà, cette espèce d'innocence de l'Ouest, c'est fini. Déjà, c'est mort. Il n'y a pas un personnage dans le film qui peut se permettre d'être naïf. Pas un seul. Il n'y a pas un seul. Même chez les Winters et tout, elle ne peut pas se permettre. Et c'est d'ailleurs, chez les Winters, quand on la voit, on se dit que c'est un miscast complet, quoi. Parce qu'elle n'a pas du tout un physique, ni une persona d'actrice, de jeune première, quoi. Et pourtant, moi, je trouve qu'elle fait carrément bien le job, parce que justement, elle devient de plus en plus insolente au fur et à mesure que le film avance. Et on sent qu'elle est capable de survivre parce que c'est une fille solide, quoi. C'est pas une cocotte. Elle a les deux pieds sur terre, donc elle est capable de survivre à son mec qu'elle lâche. Enfin, voilà, plein de choses. Je trouve que c'est un film qui est. Par rapport au western, on va dire plus fordien, je trouve qu'on est dans du western, voilà, où il y a une espèce de vraie ambiguïté. Et puis James Stewart, quoi, qui a ce visage de mec sympa et qui commence à prendre du goût à la violence avec son copain, qui lui dit au bout d'un moment, mais tu t'y prends goût à ça. Voilà,
mais pourquoi on continue, diversité, bah, je sais quoi. Pas. Voilà, et dit, voilà, une fois que tu l'as rebuté, on fera quoi?
C'est complètement du western italien. C'est complètement une préfiguration du western italien. C'est cette idée qu'il n'y a pas de but en fait, quoi. C'est la vengeance, quoi. Et c'est une espèce de truc qui déborde le personnage principal et que le personnage principal va appliquer de manière juste ou injuste. Mais même si c'est le héros, il y a cette espèce de perversité, quoi, en lui. Et James Stewart n'arrêtera pas, d'ailleurs, dans les films suivants de Mann, d'aller de plus en plus loin dans ce personnage.
Alors moi, je comprends un peu.
Après, moi, j'aime beaucoup James Stewart, donc je suis pas très objectif là-dessus.
Je n'aime pas James Stewart.
Je comprends un peu ce que dit Carla, quand même, dans l'idée que, par exemple, plutôt le début du film, notamment la séquence de tir au fusil sur les cibles et tout, il y a encore ce côté un peu western. Plus traditionnel. Je suis d'accord pour dire qu'il va carrément vers un truc de plus en plus noir.
Ça m'a fait penser à Rolfine et tout. Donc je me suis bloqué.
Je trouve que plus le film avance, plus il va aller plutôt justement dans le noir. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que plus les films vont avancer de Mann, c'est-à-dire les 5 qu'il va faire avec James Stewart, enfin les 4 autres après. À chaque film, en fait, on peut remarquer une progression dans le fait que ça va être de plus en plus. Enfin, je dis noir, mais tu en parlais mieux, en fait. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus, je sais pas si on peut dire mature ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le personnage
moderne,
de plus
moderne,
en plus
moderne.
Je suis un aventurier qui, je pense, est mon préféré de Mann.
Il est assez fort.
Qui, en termes thématiques, est quand même extrêmement costaud et où je crois que j'ai vraiment rarement vu James Stewart jouait quand même un fils de pute cynique pareil, quoi. Ce qui était vraiment rare. Et moi, je rappelle que la première fois que j'ai vu, j'étais choqué, quoi. Je dis putain, mais c'est vraiment l'enculé, quoi. C'est le mec qui est cynique jusqu'au bout. Et au fur et à mesure des films, il creuse ça de plus en plus. Un peu moins dans L'Homme de la Plaine, peut-être.
Ouais,
où
regarde, par exemple, L'Homme de la Plaine, à la fin, il offre même pas un duel loyal aux méchants. C'est-à-dire qu'il lui dit, vas-y, fous le camp, il tire pour appeler les Indiens, pour que les Indiens viennent le tuer, en fait. Il y a pas mal de scènes comme ça dans L'Homme de la Plaine où finalement.
Génial, ça aussi.
C'est quand même un peu nerveux. Mais c'est vrai que je trouve que moi, les plus réussis, c'est les trois du milieu. Mmh. Pour moi, c'est les Affameurs, qui est encore, on va dire, un peu mignon, même s'il y a plein de moments géniaux. Je trouve que formellement, c'est le plus réussi. Bah, alors, Lapin, il est super.
Peut-être noir. Que ce côté catalogue, je pense qu'il y a le scénario, mais peut-être qu'il y a aussi le fait que c'est finalement, c'est peut-être un western sur lequel. Alors, moi, je ne connais pas très bien l'histoire de 1963, mais c'est peut-être un western sur lequel il joue quelque chose en termes de carrière un peu plus important. Il est chez Universal. Et donc, peut-être qu'il y a cette envie, ce truc de dire, OK, on va. Moi, j'ai un peu ce sentiment de. Vous allez voir de quoi je suis capable. Je vais vous faire une poursuite en roulotte. Je vais vous faire une scène. Et moi, je trouve que les scènes les plus réussies, c'est les scènes en intérieur.
Ce qu'avait pas aimé justement. Dès que ça resserre. Borden Chase, le scénariste, il était un peu en colère après Mann, après ça, parce qu'il trouvait justement qu'il en avait fait un peu trop, qu'il en avait fait des caisses sur son scénario qui était un peu plus resserré et un peu moins spectaculaire.
Et je trouve justement que ça, c'est moderne aussi, cette espèce de distance, espèce de côté best-of, justement. Où on sent qu'il est. Lui n'est plus dupe, de cette mythologie, en fait. Il sait que c'est de la mythologie, en fait.
C'est compliqué. Il voulait vraiment quand même refaire du western classique, mais il est quand même aussi de la deuxième génération à Hollywood, qui sont des tourneurs, des Nicolas Ray
et tout ça.
Même quand ils essaient de faire un truc qui pense un peu classique, en fait
ils n'arrivent pas malgré eux. Ils insufflent quelque chose.
Du coup, moi, je suis d'accord avec toi, même si quand je vois les discours d'Anthony Mann, je me dis à ce moment-là, il a l'air de faire un truc un peu plus naïf, mais en fait.
Parce que c'est quand même pas un western qui suinte l'épique. C'est vrai qu'on est quand même très resserré.
Du coup, pour le coup, je pense que Jacques Audiard, il est assez fan de ce film-là. Parce que ça discute beaucoup sur les chevaux. Ouais. Ça discute beaucoup sur les chevaux. Et effectivement, il y a une espèce de refus. T'as des grands paysages quand même, mais une espèce de refus, effectivement. Où toutes les scènes qui sont importantes dramatiquement sont des scènes qui se passent soit en intérieur, soit dans des territoires hyper.
Même les scènes de fusillade, l'attaque
des Indiens, elle est bien, moi, je trouve.
L'attaque des. Ouais, elle est bien, mais pareil, elle est en fait hyper courte et hyper resserrée pour aller tout de suite passer sur une scène de dialogue à cul de cheval.
Et puis c'est l'espace. Là, la scène de l'attaque des Indiens, elle, c'est dans l'espace, c'est dans un camp, et on n'en bouge pas de ce camp-là, on est limite sur un point de vue unique. Ford, il t'aurait fait péter la dolly, là, et puis c'est parti.
Mais c'est pas les mêmes moyens non plus.
C'est pas les mêmes moyens.
Il avait comme une débauche de thunes que je pense n'avait pas
Anthony Mann. Est-ce qu'Anthony Mann le voulait d'ailleurs? Je suis même pas sûr. À un moment, il fait un contre-champ à ce petit camp de base, là. Il fait un contre-champ pour montrer un petit peu, avec très beau moment de tension, où il y a un silence complet, et puis avec un panneau, et puis hop, les Indiens arrivent. Bon, en fait, c'est le même contre-champ que dans Stagecoach de Ford, bon, bref. Mais c'est limite ce moment, quoi. Et sinon, on reste circoncis là-dedans, et on n'en bouge pas, et puis on se ramène. Et ouais, pas de grand mouvement de caméra, et pim pam poum, ça a pris. Allez hop, et après c'est pas.
Pim pam poum.
On y va, et après hop, emballer, c'est pesé, on passe à autre chose, quoi.
Mais je comprends
bizarre,
ce que tu dis par rapport à cette espèce de côté catalogue, effectivement, qui. On a l'impression que c'est vrai qu'en y repensant, et puis c'est un enchaînement finalement.
Une
morceaux de bravoure. Donc il n'y a pas vraiment de pause, en fait, il n'y a pas vraiment de respiration à l'intérieur du film. C'est un film qui avance comme un bloc, en fait, et je peux comprendre qu'effectivement ça.
Et Simon et Carla, tout à l'heure, vous parliez un peu de la proximité, en tout cas en termes de date et même en termes de thématique du Delmer Daves, la flèche brisée, sur le rapport aux Indiens qui commence un petit peu à changer à Hollywood, en tout cas sur la représentation des différentes. De peuplade indienne.
C'est relatif, hein, le chef indien était quand même interprété par Rock Hudson.
Oui, voilà, c'est relatif, mais tu vois.
Mais la flèche brisée, c'est pareil, hein, c'est toujours pas des acteurs indiens.
Représentation qu'on pourrait en avoir qui, en fait, cessent d'être des purs barbares pour avoir une once d'humanité, en tout cas, une once de réflexion dans leur personne.
Ça aussi, c'est assez pessimiste, parce qu'on voit justement que les Indiens, ils sont plus du tout cette espèce de peuple natif américain, un peu machin,
un peu naïf. Il y a du transcendantalisme,
un peu paradis terrestre, c'est complètement ça.
Ah, mais pour moi, un des plus beaux films avec des acteurs vraiment indiens, c'est Little Big Man. C'est le mieux, je trouve. Ça fonctionne le mieux et c'est le plus beau.
Mais parce que c'est aussi un des premiers où il y a vraiment un renversement de point de vue, quoi, par la trajectoire du personnage principal qui est à mi-chemin entre les deux mondes, quoi.
Mais là, dans Wishes 173, c'est rigolo, le dialogue entre l'espèce de dealer d'armes et le chef indien. Au fait, tout le monde est cynique là-dedans. Ouais, mais attends, mais heureusement que t'es un indien, que tu me parles pas comme ça, mais heureusement que je suis un indien et que je te bute pas, tout le monde est cynique. Ouais, et puis il parle de
Et puis voilà, cette association qui est perpétuelle dans le film entre l'argent et les armes. et le fait qu'ils tirent sur des pièces de monnaie lors du concours au départ et tout.
L'argent est très présent.
Et ça aussi, je trouve ça très assez moderne, de cette espèce de manière de décrire. Alors, je pense que ça a dû être fait avant, mais cette manière de décrire l'Amérique, où les deux fondations de l'Amérique, c'est l'argent et les flingues.
C'est du film noir, ça, un peu. Voilà, quand même, parce qu'à chaque fois, c'est
la cupidité. Et tout le monde est souillé par la cupidité, en fait, dans ce film-là. Moi, j'ai vraiment ressenti ce sentiment. Tout le monde, il n'y a pas d'innocent, puisque tout le monde est souillé par la culpabilité à un moment ou à un autre.
C'est ça, parce qu'en fait, dans ce film, il n'y a pas d'icône. Le seul objet qui est iconisé, c'est le flingue, plan de début.
Avec ses inserts, là.
Tu te rends très bien compte, comme tu disais, en fait, si tu as envie de comprendre ce que c'est le Second Amendement, ce que tu as envie de comprendre,
exactement,
la fascination des armes à feu et qu'on dise pas, c'est la faute des jeux vidéo, Marilyn Manson.
C'est une très belle arme, la Winchester 73.
Si tu as envie de comprendre ce qui se passe actuellement, même les fusillades, les mass shootings et compagnie, tu regardes ce film-là.
Tu as
tout compris.
C'est peut-être les plus belles armes qui étaient faites.
Donc, on est en 50, c'est iconisé. Bon, voilà, en fait,
ça se passe. Le concours, c'est pour les 100 ans de la déclaration d'indépendance, donc c'est pour les 100 ans du Second Amendement, en fait, qu'ils font ce concours de tir, quoi.
Donc, si t'as envie de comprendre ce qui se passe aux États-Unis actuellement, depuis en fait Watt Milan, tu regardes ça. Et t'as très bien compris.
Et je pense pas qu'il soit dupe de ça, Michael Mann. Anthony Mann, j'ai pas l'impression.
Non, Michael Mann non plus.
Michael Mann non plus, d'ailleurs.
Et je pensais rapidement juste à vous parler un peu du rapport argent et de l'hypercupidité. Il a traité ça, je trouve, de plus en plus dans ses films, et notamment dans un qui c'est L'Appât. C'est le moment pourtant où c'est probablement un des cinéastes à Hollywood qui a le plus d'argent, Anthony Mann, parce que Les Affameurs, c'était le plus gros succès de 52, je crois, ou un des plus gros. Et il va prendre juste quatre personnages, dont Stewart, Robert Ryan qui vient du film noir, Janet Leigh, et un autre type qui vient, Ralph Meeker, qui jouait les gros bras dans les films d'Aldrich.
Okay, cool, Ralph Meeker.
On a quatre types vraiment qui se battent en fait pour, juste pour une somme de fric en fait. Il y a pas de héros vraiment en fait. Il y a Stewart, mais en fait on les déteste tous. Et à la fin, ils finissent quand même à se foutre des coups d'éperon sur un rocher pour se donner des coups dans les mains pour qu'il y en ait qui glissent. Il y a déjà un peu ça, en fait, dans, je pense, Winchester 73, ce côté cupidité dont vous parliez, j'y avais pas pensé, mais ça va être vraiment un truc qui...
Donc, pour finir là-dessus, je voudrais quand même revenir sur l'édition. Donc, je trouve que la copie en Blu-ray est vraiment superbe. Sur tous les films proposés, là, il y a des bonus originaux ou non, soit des reprises de vieux documentaires. Mais là, en l'occurrence, on retrouve les frères Pétard de Sidonis, donc Patrick Brion et Bertrand Tavernier. L'interview de Tavernier est vraiment bien, et j'ai pensé à toi, Simon, parce qu'à un moment, il dit que les modes semi-documentarisant dans les films...
C'est vrai, il en parle.
Il dit que c'est de la merde. Je te rappelle que donc le mémoire de Simon était sur les films noirs d'Anthony Mann et sur l'aspect un peu documentaire.
Sachant que Tavernier, il est un peu malhonnête parce qu'il l'a fait des
et qu'il s'est pris
comme ça, il dit c'est de la merde.
C'est n'importe quoi, c'est ridicule.
Il était pire au téléphone.
Oui, il est bien contentieux.
On a un petit problème.
Il a fait son Jean-Pierre Coffre. Je
suis de la merde. Il a fait son tatav. Donc voilà, c'était Winchester 73 d'Anthony Mann. On va passer à Nicolas et Bette Bottiquier, et pour ça on fait une petite pause musicale. Music, aging urges rage, in a riff that swings. En attendant Godard sur Syllab, et c'était Alberto et Los Trios Paranoias avec Hands Down, No Nonsense et Mindless Boogie, donc le groupe de Manchester, on ne dirait pas malgré son nom, donc, ce qui n'a aucun rapport avec ce dont il est question à présent, donc, puisque nous parlions émission spéciale vieux conisme, donc de films, de vieux films et plus spécialement de western, donc nous quittons Anthony Mann et Winchester 73 pour aller un peu plus loin dans le temps en 1957. Avec un film de Nicolas Ray, Jesse James, le brigand bien-aimé, a.k.a. The Story of Jesse James, remake d'un film de Henry King de 1939 avec Tyrone Power et Henry Fonda. Et donc Jesse James, personnage mythique de l'Ouest, dont la figure a été maintes et maintes fois montrée au cinéma. On en avait parlé récemment pour le premier film de Samuel Fuller, A Shot Jesse James.
Très beau film, soit dit en passant.
Ouais, très beau film.
De, comme tous les films de Samuel Fuller, voilà, c'était gratuit. C'est
donc cadeau. Voilà, Nicolas Ray, qui à l'époque était quand même un peu déjà un réalisateur établi, une genre de star, donc, puisqu'il avait notamment fait Le Violent, il a fait L'Affaire d'Oreille, De Vivre, Derrière le Miroir, et puis Johnny Guitar, donc un des grands westerns marquant de l'époque. Et pour la production, après son film avec James Dean, La Fleur de Vivre, on s'est dit, bah tiens, c'est bien, il connaît un peu les jeunes, la jeunesse un peu difficile, Outcast, tout ça, les marginaux, bah tiens, pourquoi pas faire un film sur l'histoire de Jesse James et du gang qu'il avait fait avec notamment ses frères. Et l'idée de base de Nicolas Ray, en fait, c'est qu'il voulait raconter toute l'histoire du mythe de Jesse James par les chansons populaires, parce que lui, c'était un gros adepte de tout. Le folk song et le protest song, que ce soit de l'époque de la conquête vers l'Ouest ou alors de la musique des années 30, notamment la musique de Woody Guthrie. Il voulait se baser notamment sur la ballade de Jesse James qui a été utilisée et reprise maintes et maintes fois par Bruce Springsteen, par Woody Guthrie, par les Pogues, et qui est une chanson qu'on entend aussi dans le film de Samuel Fuller et à la fin de celui-là. Donc il voulait un peu justement partir de la base mythologique populaire du brigand pour raconter son histoire et l'a démystifié, mais la production a eu un peu peur des ambitions narratives et visuelles de Nicolas Ray, qu'on sait être un réalisateur pouvant être légèrement caractériel pour le moins, et en tout cas qui ne mâchait pas ses mots. Et donc le film s'est fait quasi entièrement remonter par la production. Effectivement, ça se voit, puisque tout le caractère lié à la musique populaire a quasiment disparu du film, excepté à la toute fin. Donc on entend la balade de Jesse James, et du coup on revient finalement à une narration et un film beaucoup plus classique dans sa forme, sa narration et son montage, même si je trouve qu'il y a quelques touches de Nicolas Ray dedans, enfin qui sont du pur Nicolas Ray sur quelques scènes d'action notamment et sur quelques scènes de caractérisation de personnages qui sont vraiment chouettes, mais je trouve le film en tout cas assez mineur, à la fois comparé au reste de la carrière de Nicolas Ray, que ce soit dans les thématiques sur la violence ou sur, entre guillemets, la perdition de la jeunesse, ou même sur ce qu'il avait pu faire sur le western avec Johnny Guitar, quoi. Simon, tu l'as vu aussi?
Ouais. Alors, je pensais juste, si on lui a proposé aussi ce projet, je me demande si c'est pas parce qu'il était habitué à tourner en scope, vu qu'il avait fait la fleur de vivre.
Voilà, il y avait les deux. Il y avait à la fois parce qu'il était habitué à gérer le cinémascope, et parce que donc, juste avant, il avait tourné avec James Dean. Bah, tiens, ils se sont dit, si on faisait genre La Fleur de Vivre, mais au Far West, quoi.
C'est ça. Et en plus,
ce qui du coup n'est pas du tout la même chose.
Non, c'est ça. Et puis on lui a adjoint Nunnally Johnson, qui était un des scénaristes de John Ford, mais aussi qui était probablement des plus gros, enfin, cinéastes de films en scope. C'est-à-dire quand le scope s'est développé au début, Nunnally Johnson en fait était réalisateur lui-même et s'occupait des films. Et je pense qu'ils ont pensé un peu ça en fait par rapport au film, notamment parce que Nicolas Ray a été un des plus, on va dire, des premiers un peu inventeurs sur le scope à faire plus de découpage, etc. Et donc du coup, quand tu parlais un peu justement des
gérer l'espace de manière différente aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, en gros, le scope, c'était, on faisait le moins de plans possible. C'était souvent il y avait une quinzaine de secondes en général de durée des plans. Et Nicolas Ray, par exemple, en coupe un peu plus, quoi. Mmh. Oui, c'est ça, parce que c'est cher, parce que c'est pas facile de mettre en scène en fonction justement du décor, etc., de l'éclairage et tout ça. Après, par rapport aux scènes justement d'action, je trouve que le film, son point fort, à mon avis, c'est la première partie en fait qui commence par une traque. Ça, c'est un peu le truc classique chez Nicolas Ray. Souvent, ses films, c'est des histoires de poursuites. On poursuit souvent des jeunes gens qui sont un peu en défaut. Mais là, c'est dès le début de commencer par une traque où on va chercher les frères James. Et de commencer par, on prend au milieu de l'attaque de la banque, en fait. Mmh. C'est le début du film, commence comme ça. Et après,
In medias res.
Pardon, tu dis
In medias res. Oui. Paf, bah, direct.
Et je trouve que c'est ce qui est le plus original, en fait, dans le film, en fait. Cette partie-là, de début, en fait, où on va voir directement une sorte de course-poursuite. C'est assez sec, c'est assez impressionnant. Au niveau des plans, c'est quand même bien monté et tout.
Et après, ça va être une succession de flashbacks, justement, qui revient sur toute la jeunesse du brigand, pourquoi il est devenu comme ça.
C'est ça.
L'humiliation du Sud, son frère buté, ce genre de choses, quoi. Et comment est-ce qu'il va, justement, se révolter, du coup, de devenir brigand.
C'est ça. Et alors, je sais pas bien si... Aimé. Si toi, t'as... Non, parce que moi, je l'ai vu en VF. Et si c'était ça dans ta traduction, mais les Pinkerton, ils les appelaient les Remington.
Ah non, non, dans la VO, c'est aussi les Pinkerton. Je sais pas pourquoi ils
D'accord,
ont...
D'accord, ouais, c'était assez curieux. Et les personnages, du coup, en plus, avaient tous des noms assez curieux. Par exemple, ils s'appelaient Sheriff Fury. Il y en a un qui s'appelait Remington aussi.
Ouais, mais c'est le truc classique du doublage des années 50-60, où ils changent tous les noms, ils essayent de les franciser pour les rendre un peu plus agréables.
D'accord,
ouais. Et justement, bah, Bertrand Tavernier en parle dans les bonus de Winchester 73, quand il dit que maintenant, les VF sont refaites et que c'est pas mal, parce que du coup, elles deviennent plus fidèles à la version originale. Parce que souvent, je sais pas, du coup, les persos s'appellent, James Machin, puis ils vont s'appeler Henry finalement, ou alors ils changent de prénom, ils changent de personnage, pour que ça sonne mieux, a priori, aux oreilles françaises de l'époque.
Quoi. D'accord, ok. Bon, bah, c'est.
C'est pas une. Non. Je trouve pas une.
Il faut avoir l'oreille flémarde, parce que.
Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme point un peu positif
je trouvais le début ça ultra efficace, l'attaque de la banque, tout ça. Et finalement, à la fois parce que c'est. On en parlait avant l'émission, donc c'est une figure classique du western qui est revenue maintes et maintes fois. En fait, on connaît tous parce que t'as plus vraiment de dramaturgie, originale ou de parcours de héros original, parce que c'est strictement toujours la même chose qui est racontée et souvent de la même manière. C'est d'ailleurs souvent par des flashbacks, des personnages annexes, machin. Et finalement, je trouve que Nicolas Rey, là-dedans, il n'arrive pas à en faire une figure tragique comme il a pu le faire dans ses films précédents.
Je trouve qu'il rate un peu.
Que ce soit sur le discours des rapports nord-sud après la guerre de sécession, sur la figure tragique de ce mec-là qui, justement, embarqué dans une farandole de violence qu'il ne maîtrise pas. Et je trouve ça finalement vachement léger, à la fois dans la carrière de Nicolas Rey et même par rapport à d'autres films sur James. Je parlais du Fuller tout à l'heure, que je trouvais beaucoup plus efficace sur la question du mythe de James et sur le mythe de l'Ouest, et la place du perso dans le mythe de l'Ouest.
Puis le Fuller est un grand film théorique sur la figure westernienne. Mais...
Puis il y avait eu un grand film aussi dans les années 30 d'Henry King James.
C'est celui-là, donc celui-là, c'est un remake, le film avec Power et puis Henry Fonda, qui s'appelait aussi Le Brigand Bien-Aimé.
Et je pensais je me perds un peu dans ce que j'étais en train de penser c'est l'acteur qui interprète Jesse James, Robert Wagner. Moi je le trouve plutôt bon comme acteur, par contre on voit que c'est pas un personnage pour un acteur pour Nicolas Rey, parce que la même année un an avant je crois il fait Prince Vaillant quand même avec Henri Attaway, où au contraire il va être tout feu tout flamme à sauter partout, où il est génial. Mais là en fait quand je voyais le film, en fait je trouvais que le personnage était quasiment trop fort pour jouer un des personnages de Nicolas Rey, qui d'habitude sont
plus fragiles,
assez fragile.
Il n'est pas assez psychologique, en fait, Wagner, lui, ça serait plus, une sorte d'école Errol Flynn, quoi.
Oui,
on saute, on fout le bordel. Alors Robert Taylor, ou un peu des persos un peu brutes, et qui finalement, les fêlures, c'est de la merde, quoi, donc on s'y intéresse pas, quoi.
C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une scène à peu près au milieu du film, je spoil un peu, mais il flingue un type qui lui a fait pas mal de mal, en fait. Il le tue très gratuitement en lui tirant dans le dos. La séquence est super bien filmée parce que le type court vers l'écran, en fait, et Jesse James le poursuit à cheval, en fait, et lui tire dans le dos, et l'autre tombe, en fait, on le voit plus, il sort de l'écran, en fait, et Jesse James apparaît. Alors je trouve que formellement c'est une des meilleures séquences du film. Par contre, l'acteur, il y a tellement peu d'émotions, en fait, sur son visage, qu'on se dit qu'il aurait, il se serait cuit des pattes à ce moment-là, il aurait eu strictement la même tête, en fait. Alors que c'est un enjeu très fort dans le film, c'est là qu'il devient vraiment le vrai bandit, alors qu'il vient d'être amnistié, etc. Et pour moi, c'est peut-être, c'est un des défauts du film. Même si, en même temps, il m'est assez sympathique, quand même.
Ouais, pareil. Donc voilà, le film de Nicolas Rey, Le Brigand Bien-Aimé. Donc tu parlais d'acteurs peut-être un peu falots et un peu ratés. Ça tombe bien, ça fait une parfaite transition pour le film de Bud Boutiqueur, à feu et à sens, Cimarron Kid, qui lui date de 1952 et qui met en vedette Audie Murphy, acteur au charisme pour le moins limité, mais par contre au parcours de vie... pas banal, puisque donc le mec fut héros de guerre, il a gagné une vingtaine de médailles possibles, imaginables. C'est un mec qui quand même sur les champs de bataille attaquait avec un sabre. Donc voilà, sabre au clair. Après il est devenu chanteur après la guerre, et finalement les mecs se sont dit pourquoi pas en faire une star de cinéma. Et donc il a joué quand même dans une quarantaine de longs métrages et de séries. Et donc celui-là, donc ce film d'Audie Murphy est plutôt dans son début de carrière, hein, parce que il a commencé en 1948 et donc je suis à la date de 42. Il termine sa carrière fin des années 50, je crois. Il meurt à l'âge précoce de 46 ans, puisque donc il revient de la guerre avec un léger traumatisme,
un mal-être.
Voilà, un certain mal-être qui pourtant ne se voit pas du tout dans ses films où il joue toujours un peu le héros.
Donc
un peu.
Il s'est suicidé.
Je crois qu'il s'est suicidé. Ouais. En tout cas, il a pas eu une mort pas facile. Et donc voilà donc ce film de Bud Boticher qui est un cinéaste un peu un stakhanoviste du western, à la destinée plus ou moins brinque-ballante. C'est surtout, on le connaît surtout pour ses films avec Randolph Scott, avec notamment A Common Station, qui reste, je pense, un des meilleurs films qu'il ait pu faire tout court, et surtout un des meilleurs films qu'il ait fait avec Randolph Scott.
Avec Cet homme à abattre.
Cet homme à abattre, ouais.
Ouais, putain, c'est bien ça. Ouais. Et donc là, donc avec.
Juste un mot, c'est peut-être aussi un des cinéastes qui a le plus suivi l'exemple d'Anthony Mann, c'est-à-dire qu'il a fait une série de westerns avec un même acteur, Randolph Scott, et qui ressemble quand même un peu au film d'Anthony Mann, notamment quand tu parlais justement des séquences dans des clairières, tout ça, entre peu de personnages. C'est un peu le même schéma, je trouve, chez Randolph Scott. Plus petite échelle, mais on retrouve beaucoup.
Et donc là-dedans, le perso d'Audie Murphy est un personnage ancien brigand, donc dans une bande qui est en rémission, puisqu'il sort de prison. Et donc il va être pourchassé et accusé injustement de crimes qu'il n'a pas commis. Donc ça va être un peu toute la traque de ce pauvre garçon qui, de mal en pis, va se retrouver de plus en plus dans la mouise.
Oui, et puis même chef de bande et tout ça. Oui, c'est un film... il me semble que c'est un film mineur. On parlait de Cet homme à abattre, par exemple, que je considère comme plus important dans la carrière de Bud Boticher. Ici, ça fait film mineur, ça fait film d'exploitation, mais c'est un film extrêmement sympathique.
C'est produit par qui ?
C'est une excellente question.
C'est une petite boîte, c'est un truc république
bah,
ou un truc
comme ça,
ou c'est plus gros que ça.
Je pense que c'est un peu genre de production parce qu'ils ont quand même pas l'air d'avoir énormément de moyens.
Ils ont pas l'air d'avoir de thunes. Ouais. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le film est donc très court, très ramassé, très physique. Et en fait, c'est un pur film d'action. C'est-à-dire que...
C'est vrai que ça débande pas, par contre.
Ah ouais.
Les mecs, ils arrêtent pas de se foutre sur la gueule, mais tout le temps, quoi.
Donc là, on parlait...
Deux, trois scènes d'exposition, les mecs qui parlent, ils font « Ah là là, t'es méchant, mais non, je suis pas méchant, enculé !» Bam.
Allez,
dans la gueule, puis prise barre, et hop,
on continue. On parlait tout à l'heure d'iconisation, de héros avec des fêlures, de machin. Alors ici, rien à foutre, hein. La psychologie des personnages,
zéro.
Bah, en même temps, on s'en tape, on va tout droit.
Ouais. Justement, parce que je disais que
et c'est ça qui est merveilleux.
Woody Murphy, c'est quand même un acteur au jeu et au charisme. Très limité pour le moins, donc forcément il faut pas lui faire jouer les trucs trop compliqués, quoi.
Ah mais c'est ça qui est super en fait, c'est que c'est un pur western d'exploitation, et on y va.
Là tu fais que, comme à l'armée, tu bourres dans le tas et tu
y a pas de scène, de grandes scènes épiques, de cavalcades, de panoramiques sur le magnifique, sur l'ouest américain, que dalle, on reste dans une grotte, coup de feu, fusillade. Pof, on passe dans un village, coup de feu, fusillade, bim, bam.
C'est The Raid en western, en fait.
Ouais, c'est un peu ça. En fait,
on voit le.
La grande force de Boticher ici, c'est dans son ellipse, en fait. C'est que tout ce qui est personnification, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est dramatique, ressort dramatique, quand
même,
il en a rien à foutre, littéralement. Et c'est ça qui est merveilleux. Et du coup, il se concentre sur les scènes d'action, et il y a des scènes d'action qui sont quand même mortelles. L'attaque, par exemple, avec le truc de train là, je sais pas quoi, qu'il faut retourner là.
Ouais,
putain, c'est trop bien ça.
Ouais. Le truc de train qu'il faut retourner.
Ah ouais. Soyez
un peu plus explicite. Nos chers auditeurs.
À un moment, il y a un guet-apens, donc la bande.
Bon, c'est un peu le film western que tu fais avec tes Playmobil.
Mais oui, exactement. C'est exactement ça. En fait,
j'avais l'impression d'entendre les gosses de l'école.
Il y a un guet-apens, donc en fait.
Avec les phares d'Alton.
La maréchaussée veut coincer les méchants et ils doivent se barrer donc vers une grange, sauf que la grange derrière, donc il y a le champ libre, mais il y a un train et il faut te faire tourner comme un vieux tramway en fait qui va dans un sens et tu viens de le faire tourner pour qu'elle aille dans l'autre. Et là, c'est ça. Mais sauf que c'est une putain de locomotive. Du coup, c'est complètement mortel parce qu'il y a une fusillade en même temps. Bref, c'est un film de gosse. Franchement, c'est hyper jouissif. Ah ouais, c'est piou-piou. Pim, pam, poum. Allez, toc, toc, toc. Pim, pam, poum. Allez, il n'y a pas de chevaux. On s'en fout. Et... c'est trop bien.
Ça coûte trop cher, les chevaux. On fait ça.
Ah ouais, non. Mais après, du coup, il y a des pures scènes d'action avec des pures idées visuelles, avec des idées de braquage qui sont complètement.
Le titre français, c'est à feu et à sang. Hein, c'est...
Ouais. Des idées de guet-apens, ce guet-apens là avec les charrettes là qui se rendent dans la rue et tout, ouais, c'est mortel, c'est tout vide et tout, c'est trop mortel. Ouais, le traître,
bien comme film.
Le traître, il y a même pas de, on va même pas discuter avec le méchant, avec le traître, allez hop, on le flingue et comme ça c'est emballé, c'est pesé.
Et façon de discuter, c'est l'Ouest, ça sert à rien.
Exactement. Et du coup, c'est un film qui fait 1h30 et extrêmement efficace. Parce que on prend beaucoup, j'ai pris énormément de plaisir devant ce film-là parce que c'est un film qui est taillé dans le.
Taillé dans la roche.
Qui est taillé dans la roche, comme exactement.
Comme dirait
Sniper. Ouais. Ouais.
Gravé dans la roche.
Ou qui est solide comme un rock, comme dirait Nadia.
Je crois que Thibaut a donné plus envie de voir ce western-là pour les deux autres. Ouais.
Alors que, comme on rappelle.
Ah, moi, j'ai envie de le voir, moi.
Mais il y a des vraies
bonnes idées. C'est plus mineur.
Mais c'est très mineur, c'est l'exploitation, mais c'est franchement, c'est un.
Ouais, mais exploitation, ça veut, tu vois, ça veut pas dire que tu veux pas prendre un vrai pied, quoi. Exploitation, quand c'est bien branlé.
Pour moi, généralement, exploitation, c'est dire pied du coup peut-être mais en fait c'est un film que t'as envie de voir quand t'étais gamin qui après t'as envie de jouer au cowboy aux indiens tu vois c'est un film que t'as envie de faire avec tes Playmobil c'est exactement ça
ouais, c'est un film que tu regardes t'as 8 ans
c'est,
quoi.
C'est une petite madeleine ce film là c'est une petite madeleine donc du coup bravo Bud hein. T'as fait du bon taf. Cette critique n'est pas trop scientifique.
Non, mais d'ailleurs,
c'est un vrai plaisir qui te prend au.
Sur le DVD, justement, il y a un documentaire sur Bud Boetticher sur ses dernières années en Europe où il est dans son ranch avec ses chevaux, il parle de corrida, tout ça. Qu'elle est un garçon excessivement sympathique, d'ailleurs.
Ah, mais il a l'air. Mais voilà, ça
j'ai
paye
un pote
pas
qui a sa veste. Il a la veste en cuir de Bud Boetticher. Elle est hyper lourde.
Ah bah.
Comment c'est là, il l'a volé, il a été la volée.
Non,
c'est la même, le même type de veste ou la même veste.
C'est sa veste, c'est Bud qui lui a donné. Classe, hein.
Ça pèse.
Respect.
Ouais.
Donc voilà.
Je viendrai dans mon pawn shop plus tard.
Ça, c'est un film que je connaissais pas, c'est une vraie découverte. Mais donc merci à Sidonis d'avoir fait ça.
Ouais, toujours
c'est une très belle découverte.
Qui sortent toujours des films aux qualités variables, mais en tout cas, par contre, c'est vrai que j'ai découvert chez eux plein de trucs. Quoi.
Bah, au moins, c'est un vrai plaisir cinéphile.
Le mastering est comment sur le Boetticher?
Le mastering est quand même pas correct.
C'est
copie DVD, mais c'est vrai que surtout pour les films de cette époque-là qui sont pas énormément remasterisés,
c'est pas du Technicolor, hein. Enfin, c'est pas flamboyant.
Puis c'est vrai qu'ils font quand même toujours un effort pour avoir du matériel dessus en termes de bonus, que ce soit entretien ou bien des documentaires qu'ils retrouvent. Donc c'est vrai que c'est vraiment très chouette. Donc voilà, c'était trois ressorties DVD Blu-ray chez Sidonis, Winchester 73 de Anthony Mann, Le Brigand Bien-Aimé de Nicolas Ray et À Feu à Sang, le film de Playmobil de Bud Boetticher. On va passer au coup de cœur, Dr. Erwan.
Moi, mon coup de cœur, ça sera le Frankenstein de James Whale.
Quel signifie,
1931, ouais, mais surtout non, film dont que j'avais vu il y a très longtemps. Et dont j'avais oublié que il y a des travelling diaboliques dans ce film-là. Il y a une virtuosité de la caméra. On est en 1931. Il y a des trucs sur le son qui sont complètement incroyables dans ce film. Enfin, James Whale, il maîtrise tout, quoi. Et il fait vraiment, il y a un mouvement dans ce film. Il y a des travelling qui sont d'une beauté confondante. Et c'est vraiment un film qui, j'ai été très surpris de le revoir. J'avais le souvenir d'un film beaucoup plus théâtral. Et en fait, non, c'est en fait un film très cinématographique.
Ça donne envie, tiens.
Carrément fleuré.
Moi, c'est un concert et donc un groupe que j'ai vu vendredi soir au Bistrot de la Cité. Ça s'appelle Rhume Carabiné.
Rhume ou Rhum?
Rhume. C'est un espèce de one-man band un peu à la Jessica 93 qui fait de post 8-bit new wave rock, tout ça. Donc c'est super. Le monsieur vient de Reims, il y avait une bonne ambiance. Donc bravo à lui, je recommande.
Oui. Ma chère Carla, donc vous avez été au théâtre et vous avez été émue.
Oui, très. Je suis allée voir la dernière mise en scène de Arthur Noziciel, La Dame aux Camélias, une adaptation de Alexandre Dumas.
Fils.
Oh là là.
As-tu pleuré?
Deux fois.
Mais il faut, La Dame aux Camélias, si tu pleures pas La Dame aux Camélias, c'est que t'as pas de cœur et que t'es pas un être humain. Hein.
C'était terrible.
Obligé.
Mon cœur s'est déchiré en deux. C'était la catastrophe. Mais c'était magnifique. Une scénographie à couper le souffle, des acteurs fantastiques. Enfin, voilà. Sinon,
le film de Lozay, Monsieur Klein.
Ah ouais, c'est trop bien.
Et vu que je l'ai eu dans la tête toute la journée, je vais dire la bande originale de Il était une fois la révolution de Sergio Leone.
Pom pom, tcham tcham. Et mon cher Simon Lejeune, vous, un bon film?
Moi, c'est Le Monde lui appartient, sur tes recommandations, qui est vraiment un super film d'aventure hollywoodien, début des années 50. C'est pareil, c'est un bon film pour enfants, en fait.
Avec qui?
Avec Grégory Peck.
Et voilà, bonhomme. Grégory Peck, Gal, mon cher. Non, c'est un épisode de Master of None. Moi, j'en aurais deux. C'est Le Chagrin et la Pitié, le documentaire de 4 heures et demie de Marcel Ophuls sur la collaboration à Clermont-Ferrand. Film absolument.
Collaboration qui n'a jamais existé en France. Toute la France était résistante.
Hein, justement, ça met un peu à mal, justement. C'est étrange. Ouais. Et sinon, donc, je l'ai revu hier soir. C'est le formidable chef-d'œuvre de Alex de l'Iglesia, Balade attristée de la Trompetta, qui, au fur et à mesure d'un revisionnage, est un choc de plus en plus violent et massif.
J'ai pensé ça que je me demandais tout à l'heure si Eddie Murphy, quand il chargeait au sabre, il était déguisé en clown.
C'est la question que je me posais. Je ne crois pas.
Avec cette phrase merveilleuse, mais tu vas voir quand tu vas monter sur la tranchée, quand ils vont devoir débarquer habillé en clown avec un sabre, ouais, ils vont se chier dessus.
Exactement. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, pas en direct, mais donc ça sera la mixtape pour les 10 ans de En attendant Godard. Nous, on sera soit en train de travailler, soit en train de regarder des films de Dario Argento. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir.
Salut.
Salut. Bonsoir.